Le succès est au rendez-vous pour les rencontres du film d'art au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens. Les spectateurs ont répondu présents dès le premier jour. Des rencontres où tous les arts sont mis à l'honneur à travers des films. Cette 13e édition a lieu jusqu'à dimanche et vous propose 26 films, des invités et une exposition.
Cécile Latteul et Olivier Grenapin, bonjour.
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 Alors vous êtes respectivement donc réalisatrice et directeur artistique. Vous avez présenté ce jeudi « Dansons tant qu'on n'est pas mort » à l'occasion de la 13e édition des rencontres du film d'art au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens. Tout au long de ce film, vous suivez les pas de la romancière Marie-Hélène Lafon lors de l'écriture de son dernier livre. Alors pourquoi vous êtes-vous intéressée à cette autrice ?
Alors je l'ai lu d'abord.
Oui.
Je l'ai lu d'abord. On m'a offert un de ses livres, par hasard, une amie. J'ai été éblouie par le premier livre que j'ai lu, qui s'appelle Joseph. Et j'en ai lu quelques autres. Et il se trouve qu'elle est venue présenter un livre en 2017, je crois, à Toulouse. Donc là, je l'ai vu sur scène, en action, devant un public. Et je l'ai trouvé incroyable. Je suis tombée amoureuse.
Lorsque vous lui avez proposé de tourner un film, elle a tout de suite dit accepter, Marie-Hélène Lafon.
Alors, ce jour, je ne lui ai pas proposé la première rencontre. J'étais sur d'autres films, j'étais pas... Bon, voilà. Et puis l'idée n'était pas encore là. Et elle est revenue un an après dans la même librairie. Et là, voilà, je suis allée la voir après le défilé des dédicaces. Et je lui ai dit, je vous aime, je veux faire un film avec vous. Elle n'a pas répondu. Elle m'a posé quelques questions sur le cinéma. J'ai parlé de cinéma pendant 5 minutes, 10 minutes. Ensuite, on est allé manger ensemble avec les libraires. Et à la fin du repas, elle m'a dit, vous savez, je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je l'ai pris pour un oui. Et après, je l'ai juste harcelé. Donc, voilà, le film s'est fait.
Vous allez la rencontrer chez elle, dans le Cantal ?
Alors, d'abord chez elle à Paris. D'abord, plusieurs fois à Paris, on s'est vus. Ensuite, je suis allée assez vite dans le Cantal. Et tout de suite, j'ai filmé dès les premiers repérages. Et j'ai bien fait parce que tout était fructueux, si vous voulez. Je ne sais pas si vous l'avez entendu dans le film, mais elle parle comme elle écrit, donc tout est intéressant. Et donc j'ai soigné mes repérages, j'ai soigné mes cadres et mon son dès le départ, et voilà, c'était parti.
Alors, quelle approche avez-vous voulu avoir pour ce film ? Qu'est-ce qui vous a intéressé pour la réalisation de celui-ci ?
Ça va pas être court là, parce que si vous voulez, au départ, j'avais écrit un film assez simple et Olivier Grenapin, donc mon directeur artistique, m'a très vite dit, ce serait bien de faire un film sur la jeunesse d'une œuvre. Et ça me semblait vraiment trop ambitieux, je voulais pas du tout l'aborder comme ça, donc j'ai préféré ne pas y penser, en tout cas les premiers mois, même la première année je pense. Et à un moment donné, j'ai fait une résidence artistique à l'USAS, où j'ai rencontré des producteurs qui m'ont dit, voilà, ce qui serait merveilleux, qui n'a jamais été fait en cinéma documentaire. Il y a beaucoup de films qui existent sur des écrivains, mais on n'a jamais vu un écrivain en train d'écrire, vraiment d'écrire. Et je suis arrivée chez elle en lui disant ça, tout excitée. C'était un soir, en plus c'était le Covid, donc c'était très compliqué pour se déplacer. Elle est dans le Cantal, moi j'habite à Toulouse, il y a 5 heures de route, enfin voilà, c'était, donc j'avais besoin d'autorisation, etc. Donc à partir du moment où il y a eu le Covid, elle m'a invitée à dormir chez elle. Donc du coup on avait beaucoup de temps pour parler et ça s'est un peu déplié comme ça. Et le lendemain matin au réveil, elle a écrit devant la caméra. C'était dingue pour moi, donc je vérifie bien que ça tournait, que j'ai pas fait d'erreur technique parce que c'est quand même compliqué, je tourne toute seule, donc voilà. C'était nickel. Et une fois que ça a été terminé, elle m'emballait le Saint-Nectaire qu'elle avait prévu pour mon retour. Et je lui dis, c'est incroyable Marie-Hélène, vous avez fait quelque chose qui n'existe pas dans l'histoire de cinéma. Vous avez écrit devant la caméra. Elle me dit, oui Cécile, c'est obscène. Je le refais quand vous voulez.
Et Marie-Hélène Lafon l'a vu ce film ?
Alors, Marie-Hélène n'a pas voulu le voir avant qu'il soit terminé. Donc, il y a un moment donné où, avec Olivier, on lui a proposé de regarder une version de montage pour voir s'il n'y avait pas des choses qui étaient un peu rédhibitoires, qu'elle voulait enlever ou quoi. Et elle m'a toujours dit, c'est votre œuvre artistique, je ne veux pas interférer jusqu'à la fin. Et donc, c'est un film qui a été financé par la télé, donc je crois que c'est une semaine avant la diffusion. Une semaine avant la diffusion, on a loué un auditorium à Montreuil. Voilà, on est monté à Paris avec Olivier. On a visionné le film. Donc dans la salle, il y avait la productrice, Olivier, moi et Marie-Hélène. On n'était que tous les quatre. Et elle a visionné.
Et alors, qu'en a-t-elle pensé ?
Alors on était assises toutes les deux sur le même canapé. elle a gigoté pendant tout le film. C'était affreux. Je me suis dit, oh là là, pour elle, ça doit être tellement dur. C'est tellement difficile de se voir à l'écran, sur un écran immense, son visage qui fait 10 mètres de haut. C'est très dur. Hein. Surtout que le premier plan, c'est un gros plan de son visage. Et à la fin, quand les lumières se sont rallumées, elle a commencé à marcher en long, en large, en travers, comme ça. C'était terrible. Elle s'est arrêtée. Elle nous a dit, j'ai la gueule tordue de mon père. Et elle l'a imité en train d'essayer de reculer son tracteur en faisant comme ça, vous voyez, une tête pas possible. La productrice était affligée, elle s'est dit, mon Dieu, c'est une catastrophe, elle va pas vouloir qu'il soit diffusé, etc. Et moi, je lui dis, mais c'est normal, Marianne, c'est très difficile de se voir à l'écran. Et déjà, pendant la semaine, on s'était envoyé des textos, et Olivier lui avait dit, et Marie-Hélène disait, oh, j'ai la pétoche pour vendredi, etc. Et Olivier lui disait, bah, c'est normal, parce que sur 78 minutes de film, sur 80 minutes de film, vous êtes 78 minutes à l'écran. Pour la calmer, il n'y avait pas mieux. Voilà, bon, donc ça a été difficile à encaisser, parce que, voilà. Mais elle a été très vite rassurée, surtout par les retours qu'elle a eus dès qu'il a été diffusé. Voilà, maintenant, elle est très à l'aise et elle le présente avec moi, d'ailleurs. C'est dommage qu'elle ne soit pas là ce soir.
Dans son « Tant qu'on n'est pas mort », n'est pas, je le précise, dans votre premier film, quels ont été les sujets qui vous ont intéressé ces dernières années ?
Alors, mon premier film, enfin, mon premier long métrage documentaire, c'était avec des salariés qui accompagnent les femmes victimes de violences à Toulouse, les salariés d'une association. Donc c'était sur la transmission du travail, parce que les anciennes partaient à la retraite et elles transmettaient à des femmes plus jeunes, des féministes, ce sont toutes des féministes. Donc c'était vraiment la transmission entre femmes sur un travail comme ça très particulier, et sur la co-gestion aussi, sur l'autogestion. Ça, c'était très important dans le film. Le deuxième, celui-ci s'appelait « Ce qui nous est arrivé ». Le deuxième, qui s'appelle « Pense à moi », c'était avec des migrants dans une communauté Emmaüs, dans le Tarn-et-Garonne. Complètement différent, beaucoup plus travaillé à la mise en scène. Je les ai fait jouer en fait leur propre rôle à l'écran, donc un film assez particulier comme ça. Et ensuite un film sur la littérature avec Marie-Hélène, focalisé sur son œuvre.
Et le prochain ?
Alors, il y en a plusieurs prochains. Celui qui est en cours d'élaboration est un film que je tourne à Nantes avec des handicapés mentaux qui ont créé un groupe sportif, et donc c'est sur cette expérience du groupe sportif autour d'handicapés mentaux, et je l'aborde. Si vous voulez, pour moi, le handicap mental, c'est une façon d'être au monde qui me fait penser à la musique jazz. Donc j'essaye de tourner autour de ça. Et ensuite, je prépare aussi un autre film avec une autre romancière, mais je ne vous dirai pas le nom parce qu'elle n'est pas au courant encore.
Olivier Grenapin, je rappelle que vous êtes directeur artistique. Quel était votre rôle ? Expliquez-nous votre rôle pour le tournage de ce film sur Marie-Hélène Lafont.
Alors sur ce film d'ailleurs, comme sur les autres, j'arrive au travail à partir du moment où Cécile a déjà sélectionné 5-6 heures à peu près de rush, ça s'appelle un ours en fait, sur la table de montage, et en fonction de nos discussions et de ce qui était prévu de faire ou de ce qu'on avait envie de faire comme film, je suis celui qui vient de dire si le film qu'on voulait faire et qu'on désirait fortement est possible ou pas. Donc autant dire que c'est un rôle un peu difficile et qui parfois pour Cécile est pris comme pour ce qu'il est, c'est-à-dire un peu ben non, en fait, le film n'est pas là. Il s'avère que sur celui-là, qui était dont le projet rapidement est devenu faire un film sur la littérature à travers l'œuvre de Marie-Hélène, il s'avère que c'est l'inverse. Elle n'était pas sûre que le film soit là, et au contraire, dans les rushs, moi j'ai vu que si, bien sûr, et qu'il fallait aller toute ambition vers ce film de qu'on n'a pas encore trop vu sur la littérature, mais sur un film qui sur le livre qui se fait et qui est en train de se faire. Et pour la simple raison, c'est qu'il y avait des scènes de direct. Quand par exemple Clouzot filme Picasso sur une œuvre, c'est assez facile et ça fait de la scène. C'est-à-dire qu'il y a quand même un dispositif un peu lourd dans ce film, mais on voit évidemment le dessin de Picasso en train de se faire. Nous, c'était un petit peu compliqué. Voilà, c'est quelqu'un qui tape sur un ordinateur. Bon. Mais il s'avère qu'il y avait des scènes de direct. C'est-à-dire que nous, on arrive toujours un peu après la bataille. Bien sûr, le texte est fait. Mais il s'avère que dans la rencontre entre Cécile et Marie-Hélène, de temps en temps, il se passait quelque chose de réellement créatif au moment où Cécile filmait. Donc là, ça devenait ce film sur la littérature devenait possible à ce moment-là, et on l'a monté autour de ces séquences.
Cécile Attel.
Oui, c'est pas tout à fait vrai que tu arrives au bout de 5 heures, au bout de l'ours. C'est-à-dire que, de toute façon, on regarde, dès que je vais tourner, je reviens avec les rushs et on commence à regarder. Et Olivier voit des choses que moi, je ne vois pas quand je suis la tête dedans. Et donc, par exemple, il m'a dit tout de suite, sur les plans sur les fenêtres, il m'a dit, ça, ce sera un pilier du film. Donc, il faut continuer là-dessus. Et donc, moi, quand j'y retournais, je travaillais là-dessus. Donc, il y a quand même déjà une émulation entre nous deux dès le départ, quoi, même avant l'étape du montage.
Merci à tous les deux.
Merci.
Merci.
Jean-Marie Delmoral, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes photographe et vous êtes présent à l'occasion de la 13e édition des rencontres du film d'art au cinéma Le Régent à Saint-Gaudens. Vous avez réalisé avec Cesque Mulet le film Compass des Silencies, la mesure du silence, film proposé pour ces rencontres. Dans celui-ci, vous avez suivi l'artiste peintre catalan Miguel Barceló, un travail commencé depuis plusieurs décennies.
Oui, il a démarré, ça fait maintenant 40 ans, plus de 40 ans. Et en fait, mon projet comme photographe a été, il y a déjà 40 ans, d'élaborer une histoire visuelle à partir des ateliers d'un artiste et surtout, à chaque fois que ça a été possible, des processus de création. Et l'idée est de raconter finalement une histoire en images à très long, au long cours. Parce que les ateliers sont des lieux absolument fascinants. C'est le lieu de toutes les métamorphoses, c'est des lieux où un peintre peut douter, où il peut trouver, où il se passe en fait énormément de choses en silence justement. Et le film qu'a réalisé Cesque sur la relation entre Michael et moi, c'est un film aussi qui finalement regarde beaucoup le silence.
Comment s'est faite votre rencontre ?
Alors, la rencontre avec Michael s'est faite donc en 1985. J'habitais Paris à l'époque et je suis hispano-français. Mes parents étaient exilés républicains, arrivés en 1939 en France. Et donc à partir des années 80, j'ai commencé tout un travail de photographe sur les peintres espagnols exilés qui faisaient partie de l'école de Paris. Et puis, comme toujours, quand les belles rencontres en amènent d'autres, et comme un chaînon, comme ça, certains de ces peintres m'ont parlé d'autres peintres. Par exemple, j'ai rencontré Michael grâce au peintre Antonio Saura, qui était un grand ami et qui malheureusement n'est plus de ce monde, mais qui disait, tu sais, il y a un peintre à Paris, il y en a deux que tu devrais aller voir, un qui est Miguel Ángel Campano et l'autre qui est Michael Barceló. Et comment les choses se passent? On vous passe un numéro de téléphone, vous appelez. Michael était, on peut pas dire qu'il ait été réellement enthousiaste quand je l'ai appelé pour le photographier, mais il a accepté. Et ça a été le début d'une amitié silencieuse aussi, mais qui dure depuis 40 ans et qui, si tout se passe dans le meilleur des mondes, eh bien, on essaiera de la continuer le plus tard possible.
Alors vous le connaissez bien maintenant depuis donc plus de 40 ans. Et qui est Michael Barceló?
Michael est un artiste, d'abord, Michael est un homme très cultivé, est un homme qui a une énergie absolument époustouflante et dont le travail aujourd'hui s'articule autour de la peinture, bien sûr, autour de l'aquarelle, autour de la céramique et même autour de la sculpture. Et donc c'est quelqu'un qui est, on va dire, multicarte, mais qui est surtout, qui prend chaque projet avec la même passion, et qui est, on peut dire aujourd'hui en Europe, un des peintres les plus singuliers de sa génération. Il revendique une chose qui me paraît formidable, c'est l'amour de la peinture. Et on a tellement prédit, et si souvent, la mort de la peinture, qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a des gens de cette génération-là qui continuent de peindre avec beaucoup de vaillance. Et quand au moment où nous parlons, nous sommes devant les peintures de Tony Soulier. Et Tony Soulier est aussi l'exemple de quelqu'un qui aime la peinture plus que tout. Et mon Dieu, quoi de plus formidable que ça?
Comment définiriez-vous son œuvre?
L'œuvre de Michael, Michael est un... Alors, c'est... Par exemple, pour citer un de ses maîtres et un de nos maîtres à tous, qui est Pablo Picasso, par exemple, Pablo Picasso était un classique, contrairement à ce qu'on pense. Il adorait Ingres, il adorait toute une partie de la peinture espagnole, depuis Sánchez Coello jusqu'à Velázquez, évidemment, et Goya. Et Michel a un peu cette même filiation. C'est-à-dire que même s'il a utilisé formellement des formes qui pourraient être proches de l'abstraction, mais qui ne sont pas abstraites. Mais il interroge beaucoup l'histoire de la peinture, et c'est un amoureux fou de l'histoire de l'art et de la peinture. Et donc ça se traduit beaucoup dans ses œuvres et dans sa façon de regarder le monde, finalement.
À travers le film de Cesc Moulet, qu'a-t-il voulu montrer sur cet artiste et puis sur vous ?
Cesc était très fasciné par le fait qu'un peintre et un photographe puissent avoir une amitié comme celle qui est la nôtre, et donc il voulait faire un film là-dessus. Et le projet a mis longtemps à mûrir pour lui, parce que la seule chose que j'ai demandé à Cesc, c'est, je lui ai dit, évidemment, tu fais comme tu veux, tu as carte blanche, et je suis bouleversé que tu veuilles faire quelque chose là-dessus. La seule chose que je ne veux pas, c'est que apparaissent dans ce film des gens assis face caméra et qui fassent finalement de la radio filmée. Donc, essayons d'inventer une forme filmique qui soit cohérente et qui soit différente. Et c'est ce que l'a fait admirablement bien. Et le film, finalement, c'est un portrait en duo, parce qu'il y a, on voit Mickaël dans l'atelier, on me voit en train de le photographier, on voit aussi tout un autre aspect de mon travail, parce que je ne me suis pas limité à Mickaël Barceló. Au jour d'aujourd'hui, j'ai dû photographier pas loin de 300 peintres, depuis tous les grands Européens jusqu'aux grands Américains, les grands Chinois.
Quelques noms ?
Eh bien, par exemple, aux États-Unis, Sam Francis, Joan Mitchell, Alex Katz, Jean-Paul Riopel. En France, Soulages, Olivier Debré, Garouste. En Espagne, Tapies, Saura.
Miro,
bien sûr. Oui, Miro, c'est la première fois de ma vie où je suis entré dans un atelier. C'était dans l'atelier de Miro en 1978. Donc Miro, et puis également les Chinois, Ai Weiwei, tous les Chinois des années 2000, là, qui sont des peintres très très intéressants.
Jean-Marie Del Moral, votre parcours de photographe a commencé à l'âge de 14 ans. Comment s'est fait ce déclic avec la photo ? Vous vous en souvenez ?
Je m'en souviens très bien, oui, parce qu'en fait, comme toujours, on a toujours des passeurs dans nos vies, et dans mon cas, ça a été un instituteur dans cette belle école de la République, qui était quand même quelque chose de formidable et qui malheureusement se dégrade, je crois. Mais j'avais donc un instituteur qui était un passionné d'oiseaux et qui était un passionné de photographie. Et en fait, cet homme qui s'appelait Monsieur Mallet photographiait des oiseaux. Et un jour, il est venu, j'étais en CM2, et un jour, il est venu avec un téléobjectif, et il a montré à chaque élève comment on pouvait regarder. Il y avait une cour d'école avec des arbres où il y avait des moineaux, comment on pouvait regarder de loin un oiseau. Et ça a été pour moi une révélation magnifique, à tel point que, très innocemment, à l'époque, on habitait Paris dans le 11e arrondissement avec mes parents. Il y avait les puces du marché d'Aligre, et j'ai acheté avec 2 francs d'argent de poche un vieux Kodak, une boîte à savon. Et très naïvement, je suis allé au Jardin des Plantes où il y avait un zoo, une ménagerie, et j'ai imaginé que je pourrais photographier des oiseaux comme ça. Évidemment, ça a été un désastre, mais ça m'a donné envie d'être photographe. Et donc, j'avais 14 ans. Je dois dire qu'à l'école, je m'ennuyais un peu, même si je n'étais pas mauvais élève, mais j'ai vraiment eu envie d'être photographe. Et donc, mes parents m'ont dit, si tu nous prouves que tu veux l'être, on fera tout ce qu'il faut. Et donc, j'ai postulé pour être assistant photographe dans une usine d'aéronautique qui fabriquait les boîtes noires, où j'ai été engagé comme assistant et où j'ai appris toutes les techniques de photographie de studio, d'éclairage et de laboratoire. Voilà. Mais c'est une passion d'enfant qui finalement a pu se matérialiser. Et aujourd'hui, avec le recul, j'ai 74 ans, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance de croiser un instituteur comme celui-là.
Jean-Marie Del Moral, merci.
Merci à vous.
Avec plaisir, merci.